Et vous écoutez France Culture. Que vais-je faire? Que puis-je faire? Comment puis-je échapper à ce terrifiant asservissement, à la nuit, aux ténèbres et à la peur? Bram Stoker, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui prendra ce soir un bon bain de sang bien rouge et bien épais en recevant l'angliciste Alain Morvan après avoir transformé ce panthéon des lettres qu'est la bibliothèque de la Pléiade en manoir gothique avec un volume Frankenstein. Il vient d'en faire un castel draculéen en la dotant d'un volume consacré aux récits vampiriques anglo-saxons de ses prodromes byroniens à ses efflorescences fin de siècle en passant bien sûr par le maître lui-même, Bram Stoker. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre résolument sanguin et vampirique ce soir, mais pas seulement, vous allez voir pourquoi le vampirisme en effet des formes assez complexes. Bonsoir Alain Morvan.
Bonsoir.
Quand je dis qu'on prend un bain de sang à cause de vous, ce n'est pas que vous êtes un personnage sanglant et violent, mais bien que vous avez persévérer Diabolicum avec ce deuxième volume. J'avais eu le plaisir de vous interviewer pour le premier volume, donc Frankenstein et autres chefs-d'œuvre du roman gothique qui était en Pléiade. Et puis maintenant, effectivement, vous avez pris goût à la chose, si j'ose dire, en tout cas cette littérature et sa tradition, et c'est Dracula et autres écrit vampirique et non pas récit. Entre écrit vampirique et récit vampirique, il y a un écart.
Je pense que la présence de plusieurs textes poétiques à justifier le contournement du mot récit. Voilà. Cela dit, je conviens avec vous que la différence n'est pas fondamentale. Sur la filiation entre Frankenstein et Dracula, je crois que c'est plus qu'une coïncidence. Il y a en vérité une véritable continuité qui se dessine, puisque le roman vampirique, le récit vampirique, c'est du moins comme ça que je le considère, est une branche, en quelque sorte, du tronc gothique, avec au départ un fond commun qui est, par exemple, la typologie, le décor, l'atmosphère, toute une série d'ingrédients qui sont essentiels, qu'on va retrouver dans le roman vampirique.
N'en dites pas trop, nous sommes déjà extrêmement alléchés, n'est-ce pas, Jean-Luc Rivera? Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Rivera, qui a relu pour la combientième fois Dracula?
Oh, sans doute pour la quatrième fois, je l'avais découvert.
En anglais et en français?
Non, en français, je l'avais découvert dans la célèbrissime édition Marabout.
Et puis qui, comme beaucoup d'entre nous, et quasiment tout le monde, a découvert le dernier texte, ou l'avant-dernier texte proposé dans cette anthologie, Le sang du vampire, Florence Marryat. Alors là, surprise, étonnement et réjouissement.
Remarquable.
Voilà, on va vous dire pourquoi, parce que c'est un texte, la même année que Dracula, 1897, mais qui explore l'autre voie. On ne vous en dit pas plus. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
Alors Céline Duchesnet, bien évidemment pour cette encyclopédie pratique des mauvais genres que dans quelques instants nous allons ouvrir, mais également pour un autre livre, puisque dans une autre vie, Céline Duchesnet a publier un livre sur Dracula, n'est-ce pas?
C'est presque un souvenir d'enfance, j'allais dire, qui date de 2009. C'est un livre coécrit avec Jean Marini, que vous connaissez bien, qui est donc un spécialiste de la littérature vampirique. Et nous avions retracé l'histoire du mot Dracula. Comment est-ce que du conte, il n'était pas un conte, le voïvode Vlad Tepes, donc le Vlad Dracula, a pu devenir au fil des siècles un vampire. Et c'est un livre que nous avions commis aux éditions Larousse. Voilà, donc Dracula, voilà. C'est plus Vlad Tepes, Vlad Dracula, voilà. L'Empaleur, qui est un personnage qui m'a beaucoup fasciné, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la Roumanie par ailleurs, et aux morts-vivants, parce qu'il y a beaucoup de morts-vivants aussi en Roumanie, avec les Moroi par exemple.
C'était la chance, c'est donc un livre qui est un peu aujourd'hui collector, puisque je crois qu'hélas la collection n'a pas vécu.
Non, une collection...
Mais par contre, ce qui continue de vivre, c'est notre encyclopédie pratique des mauvais genres, et ce soir, ma chère Céline, à quelle page, à quelle lettre?
Eh bien, c'est une page qui est consacrée aux forces du désordre.
Qu'est-ce qui nous attire? C'est Paris qui nous attire, donc en fait, ça dépend de ce qui se présente à nous. Il n'y a pas de cible particulière, c'est vraiment essayer de passer derrière la façade de Paris en fait.
Et ensuite, beaucoup de balades, de déambulations, d'errances comme ça dans Paris. La plupart du temps à deux et parfois avec d'autres gens. Et c'est sur le chemin, laisser la place à une fenêtre ouverte, une trappe, un lieu qui nous attirait pour aller visiter et pourquoi pas après en faire quelque chose. Ça attire notre curiosité, on essaie de rentrer, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Puis voilà, au fil du temps, des balades, on a l'œil aussi qui est aiguisé. On repère assez rapidement un bâtiment vide, puis ensuite comment accéder au bâtiment, suivant le bâtiment, le quartier. Des types de bâtiments, il y a des similitudes après d'accès.
Bah, au début, les forces du désordre, c'était un concept de soirée en fait, parce qu'on a commencé avec des petites soirées illégales, des soirées clandestines, tout en cherchant un peu des lieux pas faits pour faire des soirées, mais qui s'adaptent bien au truc, comme des cliniques abandonnées, ou des tunnels de métro, ou des choses comme ça. Et puis après, on a été un petit peu lassés de faire des soirées, mais on a continué un peu dans la mouvance de chercher des lieux parallèles et poétiques un peu. Des lieux qui ont un cachet, qui sont beaux, qui sont plaisants et qui sont un peu oubliés dans Paris, quoi. Pour y trouver ce qui est caché, ce qui est beau, ce qui est l'âme de Paris un peu, la partie secrète de Paris. En général, on n'est pas invité, oui, c'est vrai.
On pourrait les considérer comme des sortes d'Arsène Lupin des temps modernes, des gentlemen cambrioleurs, montant l'air souple et agile qui traquent la faille des monuments ou des lieux parisiens pour mieux s'y glisser, y vagabonder. Grimper sur les toits du Louvre, s'introduire dans les combles, puis se déplacer et déplacer un panneau sous un faux plafond afin d'admirer les tableaux vus d'en haut. Souffler ses bougies d'anniversaire avec ses amis dans l'horloge de la tour de la gare de Lyon en contemplant derrière le cadran Paris qui se déploie. Les forces du désordre portent un amour viscéral pour la capitale et ont choisi de partager avec des invités lors de balades ou grâce à un livre intitulé « Capitale » qu'ils viennent d'autoproduire et qui réunit les photos clandestines, des photos à l'esprit un peu punk, prises à bout de bras, en équilibre sur une poutre ou les pieds plongés dans la boue des souterrains parisiens. Et cela donne un ouvrage qui se parcourt comme un carnet de voyage où chaque étape est consacrée à un lieu, comme par exemple l'église Saint-Paul.
L'église Saint-Paul, en fait, on y était déjà allé une première fois où on avait fait un peu le tour. Donc on était allé dans les hauteurs, on avait visité l'église la nuit et tout. Sur une petite information, on s'est rendu compte qu'on avait loupé quelque chose. Du coup, on y est retourné, cette fois-ci pour descendre dans la crypte de l'église, dans laquelle nous attendait un peu une petite rencontre morbide. Parce qu'en fait, il y a certains prêtres qui officiaient dans l'église dans le temps. Je crois que c'est un peu une coutume dans certaines églises de se faire enterrer sur place. Et du coup, ils étaient là en bas, ils étaient dans des sortes de tombes, sans couvercle, avec les restes des ossements apparents. Et donc voilà, c'est une bonne rencontre morbide, quoi.
En fait, on est retourné sachant qu'on n'avait pas vu la crypte, mais sans savoir ce qu'il y avait dans la crypte. Donc c'était quand même une surprise de tomber dessus. On descend quelques marches en fait devant l'hôtel, ça se scinde en deux parties, et ensuite encore deux petites cavités dans chaque partie. Un muret, et en fait derrière le muret, il y a tous les corps qui sont alignés les uns à côté des autres, donc... sur la photo, je sais pas, il y a une quinzaine de crânes, entre 15 et 20 crânes, et les ossements en face. Et dans d'autres cavités, il y a des cercueils en plomb, souvent éventrés, où on voit les ossements.
Il y avait une petite boîte qui était fermée, par contre. Et en l'ouvrant avec la lumière de nos lampes un petit peu de bas de gamme, on s'est retrouvé avec une statue un peu enfantine. Je sais pas très bien ce que c'est, on dirait un peu un enfant prêtre. C'est qu'une statue, mais c'était quand même une vision assez... assez troublante, assez effrayante.
Donc sur le moment un peu saisissant comme ça d'arriver face à des... c'est plus des corps mais des squelettes. En tout cas il y a une présence comme ça un peu. La cave est pas très grande. Donc ouais, je m'en souviens. Et après cette petite boîte, ouais, c'est un peu effrayant. On l'a ouvert, en même temps on a un peu poussé le truc. Mais en l'ouvrant, ça, il y avait une statue d'enfant. C'était la seule forme vraiment humaine de corps parce que c'était des squelettes.
C'est une visite réussie.
Ouais, mais après c'est presque toujours réussi parce que c'est le moment... Quand on rentre, en général, c'est toujours réussi parce qu'il y a ça. Toujours une ambiance particulière quand même dans le lieu. On est rarement déçu.
Et en plus, le fait de se retrouver avec des restes, des ossements, des morts, je pense que c'est un truc qui est assez récurrent dans l'exploration urbaine parce qu'il y a ce côté un peu où on nargue un peu la mort. Ça nous permet un peu d'oublier qu'on va être les prochains à aller dans la tombe, quoi. Donc on garde un peu le dessus sur la vie on est un peu hors du temps, quoi.
Capital est le titre de ce livre des forces du désordre, collectif d'explorateurs urbains parisiens. Donc plus de 450 pages pour 385 photos, à moins que ce soit le contraire. En tout cas, décliné en abécédaire et agrémenté d'une préface de l'écrivain Philippe Vasset. Un livre qu'on peut retrouver sur le site des éditions du Terrain Vague, donc www.editionsterrainvague.com. Et puis pour suivre les forces du désordre, rendez-vous sur leur compte Instagram.
Quelle meilleure définition à la Morvan pour les vampires que cette expression « les forces du désordre ». C'est ça le vampire, il y a la force qui est absolument énorme, physique, biologique, chronologique, et puis il y a le désordre, parce que c'est quand même le facteur de désordre maximum, le vampire.
Le vampire est un être disruptif par excellence, pour employer un adjectif que je n'aime pas beaucoup, mais qui est très, très à la mode. Effectivement, il renverse toutes nos certitudes cognitives, métaphysiques, etc., et il porte à son comble un aspect de la littérature gothique qui, moi, me semble peut-être le plus spécifique de ce type d'expression, c'est-à-dire la cohabitation des contraires. Ce qu'on appelle en rhétorique l'oxymore, c'est-à-dire le fait d'être à la fois une chose et son exact contraire, le vampire et le Nosferatu, c'est le mort-vivant, c'est le non-mort, et à cet égard, il porte à son comble ce sentiment d'horreur gothique qui est que on n'est jamais sûr de l'endroit où on se trouve. Nous sommes dans la vie, mais nous sommes exactement dans la mort aussi, alors que nous l'oublions, et l'intérêt du vampire, c'est, je crois, et ça transparaît dans les propos que tiennent ces jeunes gens, les forces du désordre, jeunes gens dont je constate qu'ils sont tous mal, alors peut-être y aurait-il une interrogation à mener de ce côté-là.
Après, c'est un collectif, donc j'imagine qu'il doit y avoir des créatures féminines aussi, mais écoutez, je ne les ai pas rencontrées.
Souhaitons-le. Le vampire a le mérite de nous rappeler donc que cette mort que nous occultons dans la civilisation, je ne dirais pas contemporaine, mais moderne, on a totalement perdu le goût des danses macabres. Et Dieu sait que ça peut être très beau, une danse macabre. En tout cas, je pense que c'est...
Céline Duchesnet connaît une association d'amateurs. On pourra vous mettre en
contact, écoutez, très, si vous le souhaitez. Très volontiers.
Nous, on n'a pas perdu le goût des danses macabres, à mauvais genre.
Je m'en réjouis d'avance. Cette mort donc, que l'on occulte, c'est presque une banalité que de le dire, dans la civilisation que nous connaissons, et ce depuis l'époque moderne, le début de l'époque moderne, le XVIIe siècle, le XVIIIe, l'époque des Lumières, etc. Cette mort nous guette, nous attend, et il est bon de nous rappeler que nous ne sommes pas des demi-êtres faits uniquement d'espérance de vie, mais que nous sommes également des êtres que la mort attend et qu'il faudra un jour affronter. C'est, je crois, l'une des leçons, l'une des utilités aussi du vampirisme.
Eh bien, très belle ouverture donc pour cette émission largement consacrée au vampirisme et à Dracula. Là gisait le comte, mais on aurait dit qu'il avait en partie retrouvé la jeunesse, car la blancheur des cheveux et de la moustache s'était muée en une teinte sombre, celle du gris de fer. Les joues étaient plus pleines, et la peau blanche semblait sous-tendue de vermeil. La bouche était plus rouge que jamais, car il y avait sur les lèvres des gouttes de sang frais qui dégoulinaient des commissures et coulaient le long du menton et du cou. On aurait même dit que les yeux profonds et ardents était bordé d'une chair gonflée, car paupières et poches étaient boursouflées, comme si de toutes parts, cet être effrayant était tout simplement gorgé de sang. Il gisait tel une sangsue dégoûtante, épuisé tant il était repu. Je frémis en me penchant pour le toucher, et tous mes sens répugnaient à ce contact. Mais il me fallait fouiller, sinon j'étais perdu. Thank you. Voilà un extrait de Dracula porté par la musique de Château Flight choisie par Laurent Polleret qui s'est appliqué ce soir à nous trouver une playlist bien vampirique. L'album s'appelant bien évidemment Les Vampires. Alors Alain Morvan, vous avez retraduit tous les textes, on va voir lesquels ce soir pour constituer cette anthologie Pléiade, Dracula et autres écrits vampiriques. Mais on peut dire qu'il y a une histoire depuis les années 50 du vampirisme à l'université avec Jean-Luc Rivera. C'est Céline Duchesnay est sans doute trop jeune, mais on se souvient de Marabout Fantastique avec, dans cette édition, la préface de Tony Fèvre, alias Antoine Fèvre, donc spécialiste de l'ésotérisme, mais auteur chez Losfeld d'un livre marquant sur les vampires. Et puis est arrivée la thèse de Jacques Finet sur le vampire dans la littérature anglo-saxonne, de Jean Marini, et puis les biographies et tous les travaux draculéens de Jacques Finet. Donc il y a quand même une tradition vampirique à l'université.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, en précisant peut-être que ces dernières années, cette filière universitaire vampirique a acquis pignon sur rue, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début. Je me souviens très bien de l'époque où Jean Marini a soutenu sa thèse. Ce type de recherche avait quand même quelque chose d'un tout petit peu étrange et marginal.
Ça ne permettait pas de faire une carrière extrêmement institutionnelle.
Certains se posaient la question, est-ce que c'est comme ça qu'on peut devenir professeur d'université? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien sérieux? Il en allait de même de la littérature gothique au sens propre. Frankenstein, je me souviens très très bien, dans l'université française en tout cas, est redevenu à la mode dans les années 70-80. Mais il est vrai qu'il y avait quand même quelque chose de sulfureux autour de ces textes. Dieu merci, depuis la fin du XXe siècle et les deux décennies que nous venons de connaître lors du siècle actuel, cette tendance s'est renversée. Et maintenant, je ne dirais pas que c'est le trop-plein, mais Dieu merci, c'est une avenue qui est largement empruntée. Et tant mieux.
Du monde dans le caveau. Alors là, on parle d'une tradition française récente, mais dans le milieu anglo-saxon, là d'où proviennent ces textes, est-ce que l'université, l'histoire, Oxford, Cambridge, a pris en charge le vampirisme, les monstres et autres bizarreries gothiques?
Discrètement. Je crois qu'à cet égard, le processus était à peu près semblable à celui que nous avons connu en France. Les publications des universitaires sérieux, entre guillemets, éviter peut-être ce genre de domaine. Maintenant, là encore, ce n'est plus le cas. De nouvelles méthodologies se sont fait jour et de la sorte, il n'y a aucune excuse à faire lorsque l'on s'attaque à Dracula, au sang du vampire. D'autant que les anglo-saxons le savent, à la base de tout cela, il y a des textes qui sont des textes parfaitement honorables et de tout temps honorables.
Tout à fait. Céline.
Je me posais la question du fait que maintenant Dracula et les autres vampires soient les bienvenus à l'université. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire avec le fait que le thème du vampire se soit aussi et complètement infiltré toutes sortes de romans, de films. Le vampire est devenu quand même maintenant aussi romantique. Il a parfois des couleurs un peu de bluette.
Alors,
est-ce qu'on pourrait faire...
La célèbre bit-lit dont Jean-Luc Rivera est
un connaisseur. Enfin, on ne va pas faire la liste de tous ces... Ça arrive à peu près en même temps ou ce sont des coïncidences de l'histoire?
Je pense qu'un phénomène explique l'autre. Dans le même temps où se dissémine au maximum cette inspiration vampirique, le besoin, ça fait sentir d'apporter un peu de rationalité, d'organisation, d'interprétation aussi. Et donc, il est normal que sur cette littérature qui parfois peut prendre l'aspect d'une sous-culture, vienne se greffer un discours plus structuré et peut-être, à certains égards, plus éclairant.
Jean-Luc Rivera.
Oui, ce qui m'a passionné, comme l'a rappelé François, bon, je me suis passionné pour ce qu'on appelle la bit-lit, c'est-à-dire tous ces romans plutôt...
À l'eau de rose ou à l'eau de sang?
À l'eau de sang. Et ce qui m'a frappé dedans, c'est qu'il y a en même temps, c'est l'image du renversement des rôles. C'est-à-dire que dans ces romans, ça n'est plus l'héroïne qui attend que son père ou son fiancé vienne la sauver. C'est elle qui prend les choses et le pieu en main pour se défendre contre les vampires. Donc il me semble qu'il y a cette évolution aussi et que c'est peut-être ça qui a séduit.
J'en suis bien d'accord. À cet égard, je suis assez heureux que l'anthologie dont vous me faites l'honneur de parler ce soir avec moi, soit une anthologie qui, du point de vue de ce qu'on appelle le genre, maintenant, gender, pas le mauvais genre, mais le genre au sens sexué, soit, alors, présente un équilibre ici tout à fait achevé, puisque si l'on fait le compte, il y a, grosso modo, 4 vampires femelles et 4 vampires mâles. L'exemple, là aussi, peut se vanter d'avoir des précédents illustres. Nous avons, au début, part de tout cela, et c'est un des tout premiers textes, c'est le premier texte que je cite, nous avons un vampire femelle qui a été inventé par un des plus grands poètes anglais, Coleridge, qui est un très grand poète romantique de ce qu'on appelle la première génération des romantiques anglais, qui, à la toute fin du 18e et au début du 19e, a composé ce poème inachevé, hélas, qui s'appelle Christabel, où il met en scène un vampire qui est un vampire femelle qui prend bel et bien l'initiative, qui joue bel et bien le rôle du scélérat gothique par rapport à une jeune fille menacée, une jeune fille persécutée, et on voit bien là comment, en effet, j'en suis parfaitement d'accord avec vous, on voit bien comment le principe féminin est appelé à reprendre l'initiative.
Châteaufly, tu es toujours Les Vampires, choisis par Laurent Polleret. Alors Alain Morvan, cette anthologie donc en Pléiade, Dracula et autres récits vampiriques, 9 textes, qui s'insèrent dans une chronologie très longue. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant, puisque la chronologie qui est jointe au volume, au début, eh bien, part de 1717, date de naissance de Horace Walpole, le créateur du roman gothique, ou quasiment avec le célèbre Château d'Otrante, et va jusqu'en 1948, avec la mort de Montague Summers, qui n'est pas un écrivain, un romancier, enfin, qui est un écrivain, mais pas un romancier, qui est un personnage érudit, un savant historien du vampirisme. Donc, il y a une chronologie très large à l'intérieur duquel vous insérez ces 9 textes qui vont effectivement depuis le Christabel de Coleridge jusqu'à Florence Marryat, Le sang du vampire, qui est une véritable découverte pour tous les amateurs. Donc vous avez souhaité inscrire ces 9 textes dans véritablement un mouvement, pour dire un mouvement européen de société, puisque je vois bien que dans cette chronologie, eh bien, apparaît aussi bien, je crois, la vivisection, l'invention de la sténographie, de la machine à écrire, le capital de Karl Marx.
L'appareil Kodak.
Donc le vampirisme pour vous, au travers de ces 9 textes, ça n'est pas seulement, je dirais, une sorte de délice littéraire et un plaisir de se faire peur, c'est également un symptôme, un signe fort d'une sorte de crise sociale qui est celle de la Révolution jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est effectivement dans une perspective diachronique, hein, chronologique, que j'ai situé, que j'ai souhaité que ces textes se présentent. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, alors qu'on part d'un principe qui est extrêmement codé, il n'y a rien de plus codé que la littérature gothique. Et par conséquent, la littérature vampirique, chacun s'attend, en ouvrant un livre de vampire, à trouver les éléments statutaires. que sont alors le pieu dont vous parliez, le fait de ne pas rentrer le premier dans une maison, sauf si on y est invité soi-même, si on est un vampire, la gousse d'ail, enfin, toute cette le chasseur de vampires, le décor assorti à cette atmosphère sinistre et macabre, bref, tout un attirail d'ingrédients qu'il est facile d'ailleurs de caricaturer, facile de reproduire à l'infini, et certains ne s'en privent pas, mais en même temps, il est intéressant de voir comment cela peut s'insérer d'une manière très harmonieuse dans les grands mouvements littéraires, d'abord, de cette période qui va donc de la fin du XVIIIe jusqu'au tournant du XIXe, XXe siècle, avec au départ l'insertion dans la littérature romantique. Il y a une affinité très nette entre le héros romantique, la sensibilité romantique, le décor romantique et l'esprit du vampirisme. Et puis, à la fin, par exemple, ce que l'on appelle souvent le décadentisme, n'est-ce pas, qui représente là encore une véritable crise de société où des gens comme Stoker ou comme son ami, excellent ami, dont il avait d'ailleurs épousé la fiancée, Oscar Wilde. On ne sait pas assez qu'Oscar Wilde a été un personnage très proche de Bram Stoker, donne un assez bel exemple, si l'on pense à cet aspect donc de décadence. En même temps, une interrogation qui, elle aussi, est glissante en fonction des aléas de la conjoncture. Et plus le vampire se développe, c'est imperceptible quand on lit Polidori, quand on lit Coleridge, mais c'est très net quand on examine de près le texte de Stoker, le texte de Dracula, donc, un glissement vers une prise en compte de plus en plus forte d'un aspect qui n'est pas absolument essentiel, mais qui est quand même très important, c'est-à-dire le vampire comme incarnation d'un mal qu'on peut assimiler à l'un des produits de la civilisation industrielle, par exemple le capitalisme. Il y a une chose très intéressante qui est la conjonction intellectuelle entre tous ces auteurs et puis quelqu'un qui est enterré dans un cimetière où on a dit qu'il y avait des apparitions de vampires de temps à autre, qui est Karl Marx. Karl Marx, qui dans Le Capital, lorsqu'il parle de la journée de travail, établit une équation intéressante entre le capitaliste et le vampire, le capital représentant une entité morte à laquelle on donne vie en suçant, et cette image est très expressément utilisé par le Karl Marx en suçant cette entité vivante qui est le travail du prolétaire.
Il y a une chose sur laquelle vous évoquez aussi dans votre introduction, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette idée du progrès, de la raison qui gagne du terrain, apporte aussi une absence de peur tout à coup, puisque la société nous paraît complètement cadrée, sans crainte, nous allons vers l'avenir, l'avenir est de plus en plus beau. Et vous avez cette phrase qui est de dire que l'absence de peur est source d'effroi, et finalement l'arrivée du vampire à ce moment-là particulier en Grande-Bretagne, et puis après aussi dans d'autres
en France,
nous montre aussi que l'être humain, dans son imagination, ne peut pas vivre sans peur.
La peur d'un monde sans peur, Alain Morvan.
Tout à fait. Je crois avoir parlé à un moment donné d'une humanité hémiplégique.
Oui. Conclusion de votre introduction.
Oui, hémiplégique en ce sens que, effectivement, les deux sphères du cerveau sont dirigées vers l'appréhension du vivant en occultant totalement la mort et notamment la peur. Je pense souvent à une phrase de Roland Barthes, qui dans l'analyse qu'il produit des planches de l'encyclopédie a cette remarque très très intéressante, très profonde, et qui je crois peut inspirer toute une façon d'aborder le gothique et le vampirique. Barthes dit en effet, face à ces planches de l'encyclopédie, qu'elles nous décrivent un monde sans peur. Rien de plus vrai, et en même temps, rien de plus, mais je ne sais pas si Barthes en a aussi autant conscience que nous ce soir, rien de plus alarmant que ce monde sans peur, parce que nous savons très bien que c'est un monde artificiel, n'est-ce pas, un monde en trompe-l'œil. Le vrai monde implique la peur. Pas nécessairement la danse macabre, dont je parlais tout à l'heure de manière peut-être un tout petit peu excessive, mais il faut être dans l'excès pour rétablir un équilibre. Mais la peur, ne serait-ce que celle qui est inhérente à notre propre mortalité.
Alors avant de donner la parole à Jean-Luc Rivera, citation d'Alain Morvan, « Vivre sans la peur reviendrait à s'installer dans une quiétude hémiplégique ». Je note l'expression. À ignorer l'existence du mal, notre part d'ombre et la difficulté d'être au monde. Peut-être l'écrit vampirique nous aide-t-il à ne pas devenir des autruches métaphysiques. L'évocation de la figure mythique du vampire et de l'ambigu psychomachique qu'elle appelle en retour aide à préserver l'intégralité de notre psychisme, Jean-Luc Rivera. Vous qui n'êtes pas une autruche métaphysique.
Pas encore. Je me suis posé la question, justement, et là vous commencez à y répondre un petit peu, avec ce problème de la peur, c'est que il y a eu un hiatus très long entre le moment où on a étudié au XVIIIe siècle les vampires, j'allais dire les vampires réels. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans l'Empire autrichien, il y a un certain nombre de grands traités de la mastication des morts dans leur tour. Michael Ranft, voilà. Etc. Donc, on parle des vampires entre guillemets réels, jusque dans les années 1750. Voltaire se gausse encore, et peut-être que Karl Marx l'avait
question
lu.
À l'encyclopédie.
Il se gausse lui aussi.
Il se gausse des
profiteurs qui sont des vampires. Mais ensuite, il y a quasiment 50 ans, puisque à part Coleridge, il faut attendre 1818 et Polidori avec Lord Ruthven pour que le vampire fasse vraiment son entrée. Comment se fait-il que la littérature ne s'en soit pas emparée avant?
Alors, elle a commencé, je souscris à ce que vous dites, hein. Il y a toutes les apparences de hiatus, effectivement, dans cette quasi-béance. Mais, en vérité, ce manque est comblé par un certain nombre de textes qui sont des textes pré-vampiriques. Je crois avoir cité dans la chronologie de cet ouvrage deux poèmes qui sont l'un et l'autre des poèmes en langue allemande, et Dieu sait que la dette du gothique et du vampirisme par rapport à une certaine forme de germanité est importante. Je voudrais faire allusion par exemple à la ballade de Bürger, écrite en 73, qui est Lénore, qui est une ballade très célèbre, et qui est une superbe variation sur le thème des noces sanglantes, et qui est déjà un récit, finalement, vampirique, bien que le mot, j'en suis tout à fait d'accord, n'apparaisse pas. Et, d'une certaine façon, la même chose pourrait être dite de La fiancée de Corinthe, de Goethe, qui apparaît à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, pardon, en 1797, où là encore, dans la confrontation entre ce jeune grec et sa fiancée, apparaît cette ambiguïté, cette ambivalence foudroyante entre le désir amoureux, l'éros, et puis la mort, la destruction totale. Là aussi, nous avons, je pense, un assez bel exemple de littérature, enfin, de sensibilité sous-jacente qui va tout naturellement éclore. D'autant que, dans le même temps, le support, ce tronc dont je parlais tout à l'heure, au début de notre discussion, ce tronc qui est la littérature gothique, dont le vampirisme va se nourrir, que le vampirisme va, pardonnez l'expression, mais c'est bien le cas, sucer, dont il va sucer la substance, cette littérature gothique se développe. C'est l'âge d'or de la littérature gothique, à partir du château d'Otrante dont parlait tout à l'heure François Angelier, avec le moine de Lewis, avec les romans de Mrs. Radcliffe, etc. Donc finalement, la béance est en partie compensée. Et il n'y a pas de rupture, il y a une sorte de continuité occulte, mais elle est certainement à l'œuvre.
Jean-Luc ?
Justement, ce qui m'a frappé aussi, c'est dans ce que vous expliquez justement sur le roman gothique qui est l'ancêtre du roman vampirique, le roman gothique, en même temps, a toujours, c'est l'héritier des Lumières, il a toujours des explications extrêmement rationnelles à la fin. Il n'y a jamais véritablement de vrais fantômes, tout s'explique toujours d'une manière très rationnelle. Et il me semble qu'avec le roman vampirique, soudainement, le surnaturel, l'irrationnel, fait un retour en force, parce que Lord Ruthven, il a des capacités qui ne peuvent pas s'expliquer.
Bien sûr, Dracula non plus. On a une certaine peine à expliquer également les capacités de Harriet Brandt, l'héroïne de ce texte dont nous parlions tout à l'heure, à savoir le sang du vampire. Je dirais, peut-être, juste pour apporter une précision, que l'exclusion du surnaturel du roman gothique n'est peut-être pas aussi radicale que ça. Il y a effectivement toujours une explication rationnelle, par exemple dans les romans de Dan Radcliffe. Mais si vous prenez un texte comme Le Moine de Matthew Gregory Lewis, qui date de la même époque, des années 1790. Alors là, tout n'est pas réductible à une explication rationnelle. À la fin, c'est quand même le diable. Ce personnage féminin dévastateur qu'on nous présente et qui va causer la perte du moine est bel et bien un démon. Et c'est le diable lui-même qui vient à la fin prendre Ambrosio dans sa cellule et puis qui va le précipiter au-dessus d'une montagne espagnole où il va s'écraser. Donc il y avait quand même déjà une façon de flirter avec ce surnaturel que, j'en suis d'accord, la littérature vampirique va promouvoir quasiment à 100%.
Ne me parlez pas de sa mère. Ce n'était pas une femme, c'était un démon. La partenaire parfaite pour Henry Brandt. C'était à mes yeux une créature répugnante, une métisse insipide et indolente, qui ne quittait guère son fauteuil mais passait sa journée à manger jusqu'au moment où il devint presque impossible de se mouvoir. Je la revois avec sa bouche sensuelle, ses yeux gourmands, son front bas, son cerveau inachevé et son goût du sang. On disait que la seule chose qui la fit rire était d'observer l'agonie des pauvres êtres massacrés par son brutal protecteur. Mais elle était assoiffée de sang. On aimait la vue et l'odeur et le goûtait sur le bout du doigt lorsqu'il s'en présentait. Un extrait du sang du vampire de Florence Mariat, un des moments très forts de cette anthologie Pléiade, Dracula et autres récits vampiriques. Parce que si on voit les 9 textes que vous nous proposez, que vous avez donc, je le répète, entièrement retraduits, et c'est un bonheur que de lire vos traductions, je me permets de le dire, à la Morvan, parce qu'on sent que vous ne lâchez rien au sens. Il y a une volonté d'attraper la moindre nuance de sens qui fait des phrases assez extraordinaires. Donc sur ces 9 textes, il y a évidemment un texte poétique en ouverture, le Christabel de Coleridge. Après, il y a le moment Diodati, donc les textes qui sont sortis de ce tournoi de récits horrifiques lancé en 1816 sur les bords du lac de Genève pendant cet été sans orageux, donc par Marie Scheller. On en a parlé il y a 2 ans et 3 ans. Et puis donc, Byron et Polidori, les 2 textes-là, vampiriques, sont bien évidemment dans l'anthologie. Célébrissime, on en parlait avec Céline Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Et à la fin, il y a quand même un face-à-face absolument extraordinaire, puisque le classement est chronologique, sauf peut-être dans 2 textes qui sont en annexe. Le classement est chronologique. Et l'année 1897 paraissent 2 romans totalement antithétiques et en même temps complémentaires. Le premier, n'en parlons pas, rappelons-le, est-ce besoin, Dracula de Bram Stoker, qui est quand même le chef-d'œuvre du vampirisme archaïque, bestial, sanguin, dévastateur, véritablement presque rural et paysan, parce que c'est ça, ça vient de là, dans cette espèce de terroir balkanique qui est celui de Stoker. Et à l'opposé, découverte, Le sang du vampire, de Florence Mariat, où, comme vous le dites, c'est du vampirisme à sec.
pas une goutte de sang n'est versée et en permanence se meut dans un milieu de riches oisifs ou d'industriels, de nobles bourgeois, à la fois en Belgique et en France, une créature dont on vient d'avoir, non pas la description, mais la description de sa mère, parce que le sang a été caché, le sang est plus ou moins un souvenir ancestral dans cette famille Brandt. Mais là, dans ce sang du vampire, il n'y a absolument rien, c'est-à-dire que c'est Henriette Brandt n'agit que par une sorte de ponction totalement dématérialisée de l'énergie vitale. Elle n'a pas besoin de passer par la sucer le sang, mais elle pompe l'énergie et c'est comme ça qu'elle vide des enfants, un enfant, un bébé. N'importe qui l'approche et avec elle des rapports physiques un peu soutenus, si j'ose dire, eh bien que ce sang sans se dévitaliser. Donc là, Alain Morvan, en 1897, les deux options sont offertes au lecteur. D'un côté, le vampirisme bestial et archaïque et l'autre côté, le vampirisme, on pourrait dire, psychique ou neuropsychique.
Oui, tout à fait. En précisant aussi que le vampirisme bestial n'est pas totalement exclu du texte de Florence Marryat, oui, puisque à la génération, voilà, on vient visiter la mère, mais la génération d'avant, il y a eu la morsure de la chauve-souris vampire, qui est à l'origine de cette altération du sang, ce sang contaminé qui va être transmis à Harriet, et dont un médecin, le docteur Phillips, qu'on voit apparaître dans la deuxième partie du roman, explique que finalement, il peut très bien justifier cette espèce de dévastation.
Ce qui est extraordinaire, c'est que toute la dimension bestiale, oui, et physique, physiologique, a été refoulée, oui, et totalement repoussée aux confins de l'Empire, dans la Barbade, dans les colonies, voilà, comme les étrangleurs de Conan Doyle, tout ça c'est dans l'Inde. Et bon. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur de l'Europe même, ça devient totalement, on gomme la dimension physique.
On gomme la dimension physique, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas un vampirisme qui est une métaphore. Ces victimes, les victimes de Harriet Brandt, sont bel et bien asséchée de leur principe vital. Elle a une influence létale sur tous ceux qui s'intéressent trop à elle, tous ceux qui l'approchent ou qu'elle approche. Et ce qui, je crois, au-delà des différences que vous avez raison de souligner, au-delà de l'inversion du thème colonial par rapport à ce qu'on a dans Dracula, parce que dans Dracula, c'est quelqu'un qui vient en quelque sorte coloniser l'Angleterre et depuis la Roumanie et utiliser Londres comme une sorte de gigantesque réservoir de sang, tandis que dans Le sang du vampire, c'est une Anglaise, ou en tout cas une demi-Anglaise ou un quart d'Anglaise, puisque Harriet Brandt est une Carteronne qui, elle, comment dirais-je, représente une menace pour l'ordre impérial. Donc à la fois un renversement...
Une menace à la fois sociale, racial et anatomique.
Racial et anatomique. Où l'on voit, entre parenthèses, que, comme nous le disions tout à l'heure à propos du thème économique, le thème impérial est sous-jacent. Mais avec des dimensions extrêmement ambiguës, puisqu'on ne peut pas dire à aucun moment que ces textes représentent une justification de l'Empire. Ils en montrent aussi bien les faiblesses que la puissance et que l'arrogance. Hein. On voit très bien l'Empire se désagréger. Au fond, ce que nous montre Harriet Brandt, funeste émissaire de la Jamaïque, encore une fois à demi-anglaise, c'est que cette colonie de la couronne, qui est l'île de la Jamaïque, est en train, en passe de se désintégrer, et on voit que les planteurs sont de facto menacés par une altération du principe même de la colonisation. Mais je voudrais dire, pour répondre enfin à votre question, qu'il y a bel et bien cette différence essentielle entre le bestial et le moindrement bestial, mais que la dimension de tragédie qui, je crois, est sous-jacente à tout récit vampirique est présente dans les deux cas. On a une sorte de vampirisme bourgeois dans le cas de Florence Marryat, un vampirisme beaucoup plus flamboyant, si j'ose dire, dans le cas du comte Dracula, mais pour ces deux vecteurs de la malédiction vampirique, le résultat est le même. Au fond, non seulement ils portent vers autrui, ils sont vecteurs de destruction par le biais du sang, et de la chaîne physiologique, mais en même temps, eux-mêmes sont des victimes. Je crois que c'est intéressant, c'est de sentir chez Dracula la dimension de fatalité qui est sous-jacente à cette notion d'immortalité, ou en tout cas d'éternité. Il est éternellement condamné à rester ce qu'il est, à faire le mal, à, à aller de caisse de terre en caisse de terre. Si bien que, et l'un des personnages, qui est la chère Mina Harker, dit à deux ou trois reprises, au fond, le jour où nous réussirons, si nous le réussissons, à éliminer ce vampire, je suis persuadé qu'au dernier moment, il y aura dans ses yeux une étincelle de joie, de soulagement, parce qu'enfin, il sera libéré de cette damnation qui est pour lui l'immortalité. De la même façon, cette dimension tragique existe. Au fond, quand on gratte le texte de Florence Marryat, certes, tout cela est très plaisant. Ça commence sur la côte belge, dans une station balnéaire. C'est on voit des gens plus ou moins ridicules. C'est un peu une comédie sociale.
Madame Gabelli ne peut pas spécialement sortir.
Pour un peu, on se croirait dans une pièce de Labiche.
Exactement. Enfin,
il y a un côté malingard, ratinois, tout ça, chez tous ces gens. Mais l'essence de ce que porte Harriet est quand même profondément tragique. Elle le sent bien à la fin. Je ne veux pas gâter pour les lecteurs qui auront sans doute, enfin je l'espère, envie de lire aussi Le sang du vampire, mais la fin du roman montre que si elle apporte la dévastation à autrui, elle n'est pas exempte elle-même des dégâts qu'elle peut causer.
J'aimerais aussi qu'on revienne sur le sexe des vampires, parce qu'il y a donc des vampires féminins, des vampires masculins, et ça peut nous donner aussi l'occasion de revisiter cette généalogie assez étonnante que nous avons. Le vampire ne vient pas de nulle part, et vous expliquez bien aussi dans votre introduction à quel point c'est la réunion de tout un tas de figures, qu'elles viennent de l'Antiquité, qu'elles viennent de différents pays. Est-ce que vous pourriez nous redresser, faire aussi en sorte que de comprendre pourquoi est-ce qu'à partir par exemple du 19e siècle, le vampire est un petit peu plus masculin que féminin, par exemple.
Oui, alors vous avez raison, il y a toute une série de ce qu'on pourrait appeler des archéo-vampires, des proto-vampires, enfin les lémures, lamy, strige, goule, méduse aussi, qui est une figure très intéressante, puisqu'elle
Lilith
est à la fois...
Aussi.
Pardon.
Lilith
oui,
aussi,
oui, ah, bien sûr,
appelance.
Lilith,
figure biblique.
Lilith par excellence, Lilith, la première, censée avoir été la première femme d'Adam, et qui ressurgit effectivement au XIXe siècle avec toute une série d'avatars, par exemple la mort amoureuse de Gautier, par exemple un très intéressant récit d'Anatole France qui s'appelle La fille de Lilith.
Anatole France est un classique du vampirisme maintenant.
Oui.
Alors dites-moi.
Le vampirisme est partout.
Où va-t-on ?
Et des résurgences aussi, par exemple, sous la plume de Huysmans avec Hyacinthe Chantelouve.
Mais là, c'est un vampirisme psychique. Et lui suce les moelles.
Voilà. Tout sur un contexte de messe noire qui est tout à fait, d'une certaine façon, tout à fait.
C'est Gilles Doré qui est plutôt un vampire.
Voilà. Mais Hyacinthe Chantelouve se décrit elle-même comme une succube. Succube en salle, dit-elle d'elle-même. Hein. Voilà. Très bien. Donc, pourquoi y a-t-il ce glissement petit à petit vers une figure plus masculine ? Alors d'abord, parce qu'il y a eu, en plus des archéo-vampires, il y a eu des figures historiques qui, elles, étaient fondamentalement masculines. Certes, il y a la comtesse Bathory, hein, qu'on appelle parfois la comtesse Dracula, mais le vampire prototypique, c'est quand même Vlad Tepes.
Mais qui n'était pas vampire.
Mais il a prêté un certain nombre de ses attributs pour la construction de ce mythe du vampire littéraire. Hein. On retrouve, par exemple, l'image du pâle dans le pieu qui sert à exterminer le vampire, une fois ses méfaits accomplis. Il y a, Gilles Doré, effectivement. Et puis, plus près, Et en plein 19e siècle, l'émergence de ce phénomène tout à fait étonnant, ou en tout cas la meilleure appréhension, la meilleure connaissance que nous en avons grâce à la presse et grâce à l'opinion publique qui est beaucoup plus informée qu'au siècle précédent, l'émergence de phénomène qu'est le tueur en série. De grandes figures de tueurs en série, et en particulier, naturellement, contexte anglais, Jack l'Éventreur.
Le vampire de Dartmoor, ressuscité par Laurent Polleret pour Mauvais Genre sur France Culture. Jean-Luc Rivera, deux conseils vampiriques en fin d'émission.
Alors, deux conseils vampiriques.
Pour le week-end, de Pâques. Bravo.
Donc, certains de nos auditeurs ici se souviennent peut-être d'une belle trilogie de Deborah Harkness qui s'appelait Le Livre perdu des sortilèges et qui nous faisait rencontrer Mathieu de Clermont, un membre d'une vieille famille auvergnate de vampires du même nom, et Diana Bishop, une sorcière émérite. Avec La Force du Temps qui vient de sortir chez Calman Levy, nous retrouvons le fils au sens vampirique du terme de Mathieu, Marcus, qui est tombé éperdument amoureux de la belle Phoebe. Nous découvrirons ainsi, avec toute la finesse de l'écriture de Deborah Harkness, une question rarement abordée, qui est le processus de transformation et d'éducation du vampire qui vient juste d'être mordu. Et de manière très intelligente, on trouve aussi la question de l'évolution des mœurs et de l'adaptation au changement. Que se passe-t-il lorsqu'on est une créature quasi immortelle et que donc on a tout le temps devant soi ? Deborah Harkness le fait en nous exposant les souvenirs de Marcus, qui a été transformé lui au moment de la guerre d'indépendance américaine. Et comme elle est historienne de formation, nous découvrons ainsi l'autre versant de la belle épopée de la guerre d'indépendance, la misère physiologique des soldats, les épidémies qui les ravagent, etc. Et aussi, il ne faut même pas oublier, le rôle des Clermont dans cette grande aventure, aux côtés de Benjamin Franklin et du marquis de Lafayette. Voilà donc un très beau livre sur la psychologie et la sociologie des vampires.
La Force du Temps.
Et un autre qui est l'autre versant, ce sont les Mémoires d'Outre-Mer de Christopher Buellmann chez Hugo Éditions, où là nous passons de l'autre côté de l'Atlantique et nous découvrons donc en Amérique des vampires prédateurs féroces et cachés. Ils se terrent dans les sous-sols de Manhattan au milieu des rats et des immondices. Nous sommes dans le New York de 1978 et Buellmann nous montre la vie nocturne flamboyante Studio 54, etc. de l'époque. Époque que d'ailleurs j'ai connue, mais j'ai pas rencontré les vampires. Ben voilà. Et de l'autre côté, il y a toutes ces ruelles sombres et sordides et qui sont toutes les deux les terrains de chasse du jeune Joey Peacock qui va se retrouver confronté à des enfants tueurs encore plus redoutables que lui. Donc un très bon roman, complémentaire du précédent. On voit les deux versants du vampirisme.
Alain Morvan, l'actualité du vampirisme vous intéresse en ce moment, littérature anglo-saxonne? Vous avez noté des titres tout récents?
Tout récent, pas véritable. Ah ben, j'avoue que je vis cette modernité, cette contemporanéité du vampirisme essentiellement, je n'en ai pas honte, par le biais des productions télévisuelles. Par exemple, Walking Dead, etc. Même si parfois il y a le problème de la différence entre zombies et vampires qui se posent. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a tout au long du XXe siècle des titres qui sont véritablement incontournables, qui n'avaient pas leur place ici, parce que c'était en quelque sorte ce que je voulais faire.
Là, on s'arrête aux frontières du XIXe siècle.
Un chemin vers l'âge d'or, cheminement vers l'âge d'or du vampirisme. Hein. Voilà. Si j'ai encore une demi-seconde, j'ai peur de ne pas avoir...
Une grosse demi-seconde.
Je n'ai pas été très clair tout à l'heure lorsque j'ai parlé de l'inversion des rôles entre Dracula et puis Harriet Brandt, ce que je voulais dire, et j'aurais dû être plus clair là-dessus, c'est que d'un côté, avec le personnage d'Harriet Brandt dans Le sang du vampire, nous avons le vampire à exterminer par un geste qui est un geste colonisateur. C'est l'autorité de la métropole qui doit neutraliser ce que représente Harriet Brandt, tandis que de l'autre côté, avec Dracula, c'est ce que j'appelle la colonisation à rebours, la race élue qui est mise en coupe réglée par un étranger.
Merci Alain Morvan, vous étiez donc ce soir l'invité de Mauvais Gens pour ce Dracula et autres écrits vampiriques parus en Pléia. L'émission s'achève, bien évidemment, avec Christophe Beer.
En 1975, avec Alfred Ebel, Michel Marmin publie la première édition complète des poèmes surréalistes de Léo Mallet. Il devient un ami très proche du créateur de Nestor Burma, au point intime que celui-ci lui lègue son journal secret deux jours avant son décès. En revanche, Marmin n'a pas connu André Héléna. Il en découvre les textes grâce aux rééditions des années 2000 chez Edith. Mallet, Héléna, deux mal-aimés du polar français, forçats de la littérature populaire, avec ou sans pseudonyme, fumeurs de pipe, débutant dans la poésie, de tempérament anarchiste, désespéré. Pour le premier, la vie est dégueulasse et la sueur colle aux tripes. Pour l'autre, le bon Dieu s'en fout et les flics ont toujours raison. Où Nestor Burma rencontre l'Aristo, publié chez Aouda Issarn, rassemble les préfaces et articles de presse que Marmin a consacrés à ses deux méridionaux et dont il est un lecteur attentif et subtil. Chez Mallet, il s'amuse de la préciosité du style, particulièrement dans les romans alimentaires à l'américaine signés Frank Harding comme « Mort au bowling ». La virtuosité de son imparfait du subjonctif détonne dans cette intrigue hard-boiled pleine de fusillades. Marmin y voit la malice d'un auteur qui se joue des conventions. Chez Héléna, moins classique, il est séduit par l'inspiration roublarde du feuilletoniste et son élégance au fil de la plume. Lequel déjoue des impasses narratives par des coups de théâtre et des coïncidences telles que Marmin y décèle une dérision burlesque. Quand Mallet cisèle en artisan rigoureux, Héléna laisse courir naturellement le rythme d'un alexandrin racinien. Ses parfums insidieux et ses espoirs confus, écrit-il en évoquant les beaux jours dans la première page de Peinture au couteau. Le réel d'Héléna est plus concret, plus sensuel, quand celui de Mallet est une transfiguration onirique. Sans doute le premier était-il plus jouisseur, un nostalgique du midi, désabusé par les turpitudes du roman noir, dont le modèle du genre, selon lui, était la Bible, mais toujours prêt à ressusciter d'une phrase le soleil et faire jaillir le printemps. Pour Mallet, définitivement noir, le soleil n'est pas pour nous. Ces quelques lettres poignantes à Marmin, en fin de volume, révèlent ce pessimisme inguérissable, un état dépressif d'impuissance que l'édition de son douloureux journal secret nous avait déjà fait entendre en 1997. Admiratif des deux romanciers, Marmin dénonce les récupérations indignes, comme la récente résurrection littéraire d'un Burma de gauche bienveillante, mais il salue les adaptations télévisées avec Guy Marchand et loue le prosaïsme tragique d'Interdit de séjour de Maurice de Canonge, le seul film à l'écriture duquel Héléna participa.
Merci Christophe Beer, merci Alain Morvan d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour ce volume que je recommande évidemment à tous nos auditeurs, Dracula et autres écrits vampiriques dans la bibliothèque de la Pléiade, 9 classiques du vampirisme anglo-saxon entièrement retraduits, notamment le Dracula de Bram Stoker et la découverte de cet inédit extraordinaire qui est Le sang du vampire de Florence Maria. D'ailleurs, si vous aimez les conteurs édouardiens et victoriens, je recommande la collection Baskerville de Jean-Daniel Breck aux éditions Rivière Blanche. Je signale également Le Vampire, voyez, vous avez des collègues aux éditions Les Forges de Vulcain à la Morvan, Le Vampire de John Polidori qui vient d'y paraître, et puis donc je rappelle Déborah Harkness, La Force du Temps, Jusqu'où aller pour devenir vampire, c'est chez Kalman Levy, et de Christopher Bullman, Mémoire d'outre-mort, c'est chez Hugo Roman. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Julia Douminc, Séam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Jean-Luc Rivera, Christophe Vire et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Gens. On se retrouve samedi prochain et là nous parlerons d'Edogawa Rampo, le maître incontesté du polar, enfin du roman, du récit policier et de l'horreur grotesque japonaise. Et d'ici là, bonne nuit à tous.